Non, j'aime bien les journalistes. Mais je déteste les questions.
Barbara, en noir et blanc.
Pas du tout, je ne vous injurie pas. Je réponds la vérité, je fais mon métier, c'est tout.
Une émission de Francis Legault.
Présentée par Anne Dorval.
Si je n'avais pas chanté, j'aurais peut-être été prostituée. D'ailleurs, chanter, faire de la scène, c'est un peu la même chose.
Barbara, en noir et blanc, diffusée sur les ondes des radios francophones publiques.
Tu me paralyses en disant ça parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Enfin, ça fait rien.
Ils sont rares ceux qui ont connu Barbara enfant. Mais rien ne nous interdit d'imaginer à quoi pouvait ressembler la petite fille née Monique Cerf. L'amie, Juliette Gréco.
Une petite fille maigre et brune, très différente et très dissipée. Elle ne devait pas arrêter de bouger, elle devait être comme un feu follet.
Le maire de Précy, Yves Dutheil.
J'imagine une petite fille à la fois gaie et triste, très artiste dans l'âme. J'imagine la vie, entre guillemets, ordinaire, d'une petite fille juive réfugiée dans un village et se cachant avec un secret sur l'âme qui redoutait d'être découverte ou surprise pour être emmenée, Dieu sait où.
La grande Sophie.
Moi, je la vois vraiment avec ses grands yeux noirs écarquillés, en train d'observer tout ce qui se passe. Et même, je la vois, j'imagine, avec un petit cahier, en train de prendre des notes. Et je crois qu'elle a commencé assez jeune, même, à poser ses doigts sur un piano. En tout cas, elle en rêvait beaucoup.
L'animateur, Jacques Chancel.
Je crois, petite fille apeurée, petite fille malheureuse, petite fille vraiment épousant tous les maux du siècle. Je crois qu'elle a été cette petite fille. Et à la vérité, elle est devenue Barbara, parce qu'elle était cette petite fille.
Barbara, au micro de Jacques Chancel.
Mais on ne sait pas d'où vient Barbara, si ? Qui est Barbara, au fait ?
Une femme qui chante. Née où ? Née à Paris.
À Paris. Ayant vécu à Paris ?
Oui.
Ayant des parents qui faisaient quoi ? On n'en parle pas ?
Non.
Donc c'est quand même le mystère Barbara.
C'est pas un mystère, c'est
Barbara qui ne vient de nulle part.
Non, c'est pas un mystère, c'est que quand on a une famille, c'est pas, je sais pas, il faut peut-être préserver aussi. C'est peut-être une façon de préserver. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre en cause des gens ? C'est pas parce qu'on a choisi ce métier, qu'on est fou de ce métier, que c'est toute notre vie, qu'il faut bouleverser la vie de ceux qui sont les nôtres. Et je crois qu'il faut préserver.
Mais qui sont vivants ?
Non, mais ça fait rien, justement. Ça, c'est trop facile.
Tout au long de sa vie, la chanteuse Barbara protégera son enfance. Devant les questions indiscrètes, rideaux et volets clos. Mais parfois, au détour d'une route, le souvenir apparaît. Sa secrétaire, Marie Schex.
Nous étions en tournée avec Barbara. On partait le matin et puis on roulait jusqu'à la ville suivante. Et là, on allait sur Grenoble et la voiture est passée devant un écriteau Saint-Marcellin, 6 kilomètres, quelque chose comme ça. Et là, Barbara, qui somnolait à l'arrière, s'est redressée et a demandé à Pierre, le chauffeur, il dit « Mais c'est Saint-Marcellin, c'est mon Saint-Marcellin à moi ?» Et Pierre lui a dit « Écoutez, patronne, j'en sais rien, il y a plusieurs Saint-Marcellin en France, mais ça, c'est près de Grenoble. » Elle a dit « Ah, mais c'est ça, je veux y aller. » Et elle dit « On va s'arrêter là, je vais aller demander le chemin. » On la laissait faire, elle était comme un peu habitée comme ça, elle était comme quelqu'un qui a décidé de faire une chose et on ne sait pas ce que ça va être. Et effectivement, elle est ressortie d'un café avec une dame âgée et qui lui a indiqué un chemin. Et cette dame, elle l'a embrassée en partant. Pierre conduisait, moi j'étais avec elle. Elle ne nous disait rien à nous, mais elle suivait son idée. Elle savait le chemin pour aller dans la maison. Et la maison était une villa un peu en dehors de la ville, qui était assez jolie d'ailleurs. Et on s'est arrêté, elle est allée voir, il n'y avait personne. Elle a réussi à tourner autour de la maison. Enfin, je pense qu'il y avait une grille. Mais la maison n'était pas habitée à ce moment-là. Et elle est revenue dans la voiture en pleurant. Elle revoyait pour la première fois, donc depuis 1943 et ce moment de son enfance, cette maison où elle avait vécu avec ses parents. D'ailleurs, le père était là. Et le soir même, elle a commencé à jouer une musique, à fredonner quelque chose au piano. pendant les pendant ses répétitions avec ses musiciens, quelque chose que je connaissais pas. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyantes étouffées sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, ou mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Ou les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
Cette histoire commence le 9 juin 1930, à la nuit tombante, à Paris, près du square des Batignolles. Le neveu de Barbara, Bernard Cerf.
Ma grand-mère paternelle est née en Russie, à Tiraspol. On ne sait pas exactement à 8 jours près quand elle est née, parce qu'elle est arrivée en France, elle avait 2-3 mois. Donc oui, effectivement, de ce côté-là, il y avait des origines russes. Je me souviens que ma grand-mère allait souvent dans les restaurants russes. Il y avait une espèce de restaurant où elle allait souvent déjeuner. Mais je ne peux pas vous dire parce que, bon, personne ne parle russe dans ma famille en tout cas.
Barbara à l'émission Jumelage en 1965.
Les amis russes que nous voulons inviter dans notre émission de Jumelage sont parfois difficiles à trouver. Il faut aller les chercher au fin fond des Batignolles. C'est le cas de Barbara, car vous êtes russe.
Oui.
Enfin, d'origine.
Oui, d'origine. Oui.
Père, mère ou père et mère?
Mère.
D'où est-elle?
Elle est d'Odessa, tout son père, sa mère, enfin, tout le côté maternel.
Et vous parlez russe?
Pas du tout. Enfin, je parlais quand j'étais toute petite fille, et puis quand ma grand-mère est morte, je n'ai plus parlé, ce qui est ridicule, parce que ça, c'est une des choses que je regrette beaucoup.
Et votre père?
Mon père est français.
France Inter.
Ressentez-vous, Barbara, une influence russe en vous?
Non, enfin, moi, pas du tout. Pas plus qu'un monsieur qui est à Melun et qui a l'âme tourmentée ou qui vit à... Vous comprenez, je sais pas du tout, c'est ces gens qui pensent que les Juifs ont les ongles longs et crochus, les artistes ont les cheveux sales et les Russes ont l'âme tourmentée. Moi, je crois que je connais des Parisiens ou des gens à Versailles qui sont pas le bœuf mironton.
Le chanteur Arthur H.
C'est un truc qui m'a toujours assez étonné, en fait. C'est que, pour moi, les deux personnes les plus à vif, avec la sensibilité la plus exacerbée, c'est Barbara et Gainsbourg, tu vois, dans cette espèce d'émotion comme ça, un peu tragique, mais une légèreté aussi. Et il se trouve que tous les deux sont des Juifs russes. Donc, c'est, pour moi, Barbara et Gainsbourg, c'est l'apport des Juifs russes à la chanson française avec cette sensibilité très slave, quoi. Vraiment très, très, très russe, en fait.
Chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec jamais, toujours bien. Je te fais le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil. Le jour, la nuit, c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de mes reins douces la chaleur de tes mains. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois qu'on parle d'amour, chaque fois qu'on aime d'amour, c'est avec jamais et toujours. On refait le même chemin en ne se souvenant de rien. Et l'on recommence soumise, Florence et Naples, Naples et Venise. On se le dit, on y croit, que c'est pour la première fois. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois qu'on aime d'amour, à pouvoir encore et toujours s'aimer et mentir d'amour. Et bien qu'on connaisse l'histoire, pouvoir s'émerveiller d'y croire, et se refaire pour pas une thune d'éclair d'amour au clair de lune, et rester là c'est merveilleux, à se rire du fond des yeux, à pouvoir encore et toujours s'aimer et mentir d'amour. Ah, redis-le, redis-le moi que je suis ta première fois, viens. Et refais-moi le serment qu'avant moi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil. Le jour, la nuit, c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de terrain douce la chaleur de mes mains. Ah, redis-le, redis-le-moi que je suis ta première fois. Ah, redis-le-moi, je te crois, je t'aime. C'est la première fois. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois.
J'ai été une petite fille qui s'est construit un monde, comme beaucoup d'enfants, et qui s'y est enfermée. Dans ce monde, j'étais pianiste chantante. Je tambourinais sur une table des musiques que je scandais ou miaulais infatigablement. Mes mains se posaient, s'agitaient au-dessus d'un clavier imaginaire, et durant de longues heures, j'étais la plus grande pianiste du monde.
Viens mettre le couvert !
Ah, les briseurs de rêves qui m'ont fait à tout jamais détester l'obéissance. Lorsqu'on est la plus grande pianiste du monde, on ne met pas le couvert. Je ne suis pas devenue la plus grande pianiste du monde, mais des musiques, j'ai continué d'en entendre et j'ai conservé cette phobie que l'on puisse briser le rêve, défaire l'instant.
La clé de tout est dans l'enfance.
Le minutieux Jean-François Fontana.
Bon, et il se trouve que chez Barbara, c'est une enfance particulièrement riche, mais pas riche positivement. C'est une enfance riche de drames. Et ce sont ces drames qui l'ont nourrie, qui en ont certainement fait l'artiste qu'elle était. Un de ces drames, ça a été que cette future pianiste s'est trouvée à un moment, lorsqu'elle était à Saint-Marcellin, à l'adolescence, affectée par un mal étrange de poussée osseuse, cartilagineuse, je ne sais pas quoi, dans la main droite, qui ont nécessité 7 opérations. 7 opérations qui ont guéri effectivement la main, mais qui l'ont rendue inapte au jeu du piano, en tout cas comme une pianiste virtuose. Et donc elle a compris à ce moment-là qu'elle ne serait pas la pianiste chantante qu'elle rêvait d'être. Ben, il restait la chanteuse, hein, et la chanteuse éventuellement pouvant s'accompagner elle-même au piano, quoi, sans pouvoir jouer des grandes œuvres, mais au moins les siennes qui n'étaient pas petites.
Sur les ondes de la radio suisse romande, avec Franck Musy.
Finalement, je me suis mise au piano par peur. Je crois que je me suis assise à un piano parce que, justement, on me disait toujours « t'es trop grande pour chanter debout, je ne sais pas quoi faire de mes cordes, mon genre, mes jambes, mes bras. » Je ne sais pas, je pensais pas un jour j'allais chanter debout. Alors je me suis mise au piano, je me suis fait une espèce de protection, si vous voulez. Le piano devenait une espèce de j'avais peur, une espèce de bouclier, espèce de jardin dans lequel je m'abritais, et j'ai commencé à taper sur ce piano. Vraiment, je ne sais pas du tout jouer piano, pas du tout jouer. Je ne sais toujours pas jouer d'ailleurs. Je ne sais pas jouer une seule des mélodies de mes chansons, je sais que les accompagnements. Enfin, quoi que maintenant j'ai un peu solfège l'année dernière.
Vous n'avez pas répondu en fait à la question que vous avez posée tout à l'heure.
Je ne sais pas ce qu'on m'avait demandé.
Vous avez demandé de me parler de votre premier piano, de me raconter le premier piano.
Premier piano, moi je ne sais pas, tout le temps que je de ma vie, dans les maisons, je disais toujours il y a un piano. C'était la première question que je posais. Une maison qui n'avait pas de piano n'était pas une maison pour moi. Mais comme pendant la guerre, je voyageais beaucoup, à chaque fois que je rêvais qu'il y avait des gens, ou qu'on trouvait des gens, on me disait bon, on va aller chez un tel. Est-ce qu'il y a un piano? Non, il n'y a pas de piano. Oh, bah, les gens mal élevés. Ils étaient mal élevés ou désagréables, les gens qui n'avaient pas de piano pour moi. Et dès qu'il y avait un piano, alors je tapais dessus, je cherchais des accords, que je ne trouvais pas d'ailleurs, parce qu'au moment où on m'arrachait de ce piano,
Alors la première fois que je me souviens pas, la première fois que j'ai dû m'accompagner au piano, ben, j'en sais rien, ça devait être une catastrophe, ça devait être épouvantable. Je devais jouer 4 notes.
Le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière, on tourne au coin du vieux cimetière pour suivre un peu le vieux canal. Puis vers 5 heures, on rentrera suivant d'autres murs, d'autres grilles, en passant par l'école des filles jusqu'au mur de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Pas souvent que j'ai gagné la médaille de la bonne conduite. J'aime pas manger la soupe gratuite, moi j'aime mieux dormir dans les prés. J'aurai pas mon certificat, paraît que je suis la mauvaise graine, parce qu'un jour j'ai écrit je t'aime sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. La nuit, je m'invente un vrai roman, que j'ai toujours mon père, ma mère, une vraie maman en robe claire, un papa qui a plein d'argent. Ah, si jamais ils entendent ça, je les en supplie qu'ils reviennent tout de suite, avant que mes ongles s'effritent sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Pas bien gros, je suis pas malin, j'ai peur de jamais être un homme, de rester toujours le pauvre môme à qui personne ne tendrait la main. Et malgré qu'on soit bon pour moi, un jour ça pètera dans ma tête, et pour peu que j'ai des allumettes, je foutrai le feu à l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés. Oh oui, monsieur, à boutons dorés.
Jean-François Fontana, sur France Inter.
Elle avait déjà, effectivement, le côté chef de guerre, hein, comme elle dit elle-même, c'est-à-dire que elle faisait mettre en rang ses petits camarades à Préau, qui a été donc le premier lieu où elle a atterri juste après l'exode de juin 40, où elle les faisait mettre en rang pour les faire chanter ou leur faire jouer des scénettes. Et puis elle était aussi déjà la jeune fille distante dont parlent ses camarades de Saint-Marcellin, en disant qu'elle était ce qu'on dit aussi tous ses camarades de cabaret, c'est-à-dire à la fois une camarade très gentille, très chaleureuse, très bonne camarade, pas du tout dans les trucs de jalousie qu'il peut y avoir dans un petit milieu, quel qu'il soit, etc. Pas du tout ça, mais aussi en même temps, pas quelqu'un à qui on tapait sur l'épaule, voilà, que l'on pouvait chahuter, etc. Avec un côté princesse lointaine, oui, qu'elle avait déjà et qu'elle a toujours eu. Un de ses camarades de Saint-Marcellin dit... Il dit, oui, on était tous un peu amoureux d'elle, mais aucun de nous n'aurait jamais osé lui dire quoi que ce soit.
Son neveu, Bernard Cerf.
Ça a été une période un peu difficile, parce que, comme vous le savez, la famille de mon père, c'est une famille juive. Donc, les lois très vite, les lois de Vichy, ont fait que les juifs étaient des citoyens de seconde zone, et il valait mieux fuir. Donc, la famille de mon père a fui. Quand les Allemands étaient à Paris, ils étaient à Blois. Quand ils étaient à Blois, ils étaient plus au sud. Donc c'était une période effectivement un peu angoissante quand même, parce qu'à chaque fois, il y avait le risque d'être dénoncé. Et puis il y avait la milice. Enfin, c'était un climat très, très, très inquiétant, très anxiogène. En même temps, il y avait des Français formidables qui vous sauvaient, qui vous cachaient, mais il y avait aussi des gens qui vous dénonçaient. Donc la famille de mon père est arrivée après moult et moult... escapades, est arrivé dans un petit village qui s'appelait Saint-Marcellin, qui est très connu pour son fromage, entre autres, et qui était équidistant de Grenoble et de Valence. Et je crois qu'ils sont allés là-bas parce que mon père allait déjà au lycée, et Barbara aussi d'ailleurs, Et alors, c'était compliqué de trouver un endroit où il y a un lycée. Il y avait les grandes villes, mais les grandes villes étaient dangereuses parce que dans les grandes villes, on dénonçait beaucoup plus. Donc c'est comme ça qu'ils se sont trouvés installés à Saint-Marcellin. Et c'est Saint-Marcellin dont parle Barbara dans la chanson « Mon enfance ».
Les prouesses scolaires ne sont pas pour moi. Je collectionne les observations du genre très indisciplinée, trop rieuse, meneuse, frondeuse, désobéissante. Faire rire et chanter, organiser des spectacles, c'est tout ce qui m'intéresse.
Vous n'avez jamais été tentée par le fait de faire des études musicales?
Non. Mais je dois dire qu'aucune étude, hein, c'est fou. Moi, ça m'a toujours ennuyée, peut-être que ça m'a été mal présenté, j'en sais rien. J'ai toujours ennuyé les études, religieusement. Et avec une grande admiration pour les gens qui savent. Comme j'aimerais savoir, mais j'ai la possibilité de savoir qu'à ouvrir des livres. Mais alors je dis, je comprends pas. Ce qui est vrai d'ailleurs, je comprends pas. Ou alors il y a des choses que je comprends, et dont les gens me disent, mais Foucault, c'est pas du tout. Alors on sait pas.
Mais c'est très cohérent tout ce que vous me dites.
Mais oui, on est toujours chez un cohérent, très cohérent.
En fait, vous aimez savoir et vous n'avez pas envie d'apprendre.
Oui, c'est ça, voilà. Tout à coup, j'ai une espèce de folie, je vais m'acheter des livres. Il faut qu'ils soient là, que je les ai à portée de la main. Ça veut pas dire que je vais les ouvrir, je les ouvrirai peut-être un an plus tard, mais ils sont là, c'est ça que j'ai envie d'avoir, je sais qu'ils sont là, et je ne peux pas dire ce qu'il y a dedans, mais je sais quand même.
Je vins au monde, je n'avais rien dans la tête, c'est drôle, j'avais tout dans les gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née, hop là. Sur un long corps, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré, pas besoin d'être prophète pour deviner. Hop là, qu'à l'âge où l'on joue encore à chat perché, sur les tabourets, au bord du chat qui pêche, mes gambettes gainées de soie noire, déjà je me perchais. Hop là, je n'ai pas dansé les rondes enfantines, au bois joli sonnait les matines, à pas de loup, mais déjà sans peur du loup, à 15 ans je trottinais. J'ai pas de tête, et j'ai des jambes qui me portent, me rapportent. J'étais en pule, point virgule, je dégaine, ma dégaine. Enfant, j'avais l'âme pieuse et je rêvais d'être un jour une petite sœur du bon Dieu. Ben, je suis petite sœur d'amour, venez à moi. Venez, venez donc mes frères, pourvu qu'on y croit. À chacun sa prière, Dieu m'a donné la foi et le savoir-faire, qu'il soit loué. Hop là, venez à moi, venez, Dieu vous le pardonne. Ce soir, c'est Noël, dans le cœur des hommes. Quelle est jolie la messe qu'on danse à minuit au creux de son lit. Hop là, si vous êtes musicien, je sais la messe en ré. Si vous êtes général, je vous ferai le défilé. Si vous êtes poète, j'avouerai, réciterai la petite chanson de Verlaine. Si vous aimez les marins, je serai mousse, comme dit la chanson. Je vous ferai ça en douce, venez mes frères. Je ne suis pas cultivée, mais j'ai des connaissances. Rien dans la tête, tout en jambes, je trottine et mutine. Douce, douce, pas farouche, je dégaine, ma dégaine. Quel beau métier, je suis petite sœur d'amour, infatigable. Je vais de nuit et de jour, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, c'est bien connu. Hop là, et que m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux, je m'en fiche, comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien. Hop là, de mon enfance, j'ai gardé l'âme pieuse, bien sûr, je ne suis pas vraiment religieuse, mais chaque jour auprès de vous, mes chers frères, j'égraine mon rosaire. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie, ensemble nous aurons notre paradis, ensemble nous monterons au septième ciel. Hop là, hop là, hop là.
Jean-François Fontana,
Donc lorsque Barbara dit qu'elle a vécu cette période de la guerre de valise en valise, d'hôtel en hôtel, et donc là de maison en maison, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que même quand ils se sont posés à Saint-Marcellin, qui était quand même un havre par rapport à ce qu'ils avaient connu avant, hein, à l'exode d'abord et la fuite ensuite de ville en ville, même quand ils se sont posés à Saint-Marcellin, ils n'ont jamais défait leur valise. Ils ont commencé par habiter à l'hôtel, même dans deux hôtels et maisons différentes, puis ensuite dans la fameuse maison du Coteau du Mollard que Barbara chante dans la chanson « Mon enfance ». Mais même dans cette maison, les valises étaient toujours prêtes. La maison servait essentiellement à dormir, à s'y retrouver le soir. Et les repas du soir, en tout cas, ont continué à se prendre à l'hôtel Serve où ils avaient atterri au départ. Ce qui fait que bon, Madame Serve, qui était une très vieille dame il y a quelques années quand je l'ai rencontrée, mais une très vieille dame qui se souvenait très bien de cette famille, du père, de la mère, des quatre enfants, et comme par hasard, plus particulièrement encore, de Monique, qui était la jeune fille la plus vive, la plus espiègle, qui se faisait le plus remarquer, et qui, le soir, après le repas, se collait contre le comptoir et qui chantait les chansons qu'elle avait entendues à la radio dans la journée, les chansons de l'époque.
France Inter, le journaliste et ami, Jérôme Garcin.
Pendant la guerre, il faut rappeler que c'était une petite juive qui a échappé miraculeusement aux rafles. Elle a vu dans le Vercors, elle a vu un matin, en sortant de la pâtisserie, un tout jeune garçon, un maquisard, fusillé sous ses yeux. Alors je ne sais plus si c'était par les miliciens français ou par les Allemands, peu importe. Elle a eu comme ça sous les yeux, elle, la petite juive, la petite Monique Serf, a eu sous les yeux le spectacle odieux d'un jeune résistant qui est abattu. Et je crois que ça, c'est une chose aussi que j'ai apprise à son contact, c'est que toutes les chansons de Barbara sont nées, comme cette histoire de ce maquisard, d'une image, d'un souvenir, souvent cruel.
Il me revient des images, ce village, ton visage, toi seul sur cette route. Et les pas qui se rapprochent en cadence, en cadence, en cadence, en cadence, en cadence, en cadence.
En interview avec Jean-Luc S.
Il y a des choses que vous avez inhibées, par exemple, que vous vous êtes dites, je ne rencontre pas cette chose dans ma vie. Je parle d'une chanson précise dans cet album, vous vous doutez, de laquelle vous évoquez quelque chose de la guerre, quoi. Donc vous étiez une petite fille.
Oui, enfin j'avais 12 ans, oui, mais je fuis pas le souvenir des choses, c'est-à-dire que le souvenir est inscrit en moi, et puis la chanson est sortie beaucoup plus tard, quoi, hein, c'est ça, mais je l'ai pas inhibée, c'est la preuve, j'ai mis longtemps à l'écrire, on peut dire, voilà, c'est tout, ce qu'on peut dire, il y a des choses qui sont plus lentes, parce que quand il y a des vérités, quelquefois, pour rester exact dans le fait, c'est difficile, quoi.
Est-ce que c'était obsédant, par
ça
exemple
m'a pas obsédé. Ça m'a pas obsédé, c'est resté là, quoi. C'est une image qui est restée là, c'est cet homme qui disparaît comme ça, entre les autres. Ça m'a pas obsédé. Mais c'est resté dans moi, quoi. Je l'ai pas oublié, voilà, disons.
Je dis ça parce que j'ai lu votre CV. Et puis donc, il y a une date de naissance, et puis 10 ans après, il y a 1940... D'hôtel en hôtel, de rue en rue, de ville en ville. Je me souviens plus.
Une chanson que vous me faites là. D'hôtel en hôtel et de ville en ville.
Comptez pas sur moi pour vous faire une chanson, mais.
Pourquoi pas? Tout le monde peut faire une chanson dans sa vie.
Je vais essayer. Mais je me suis dit, tiens, c'est une façon tellement précise.
Parce que j'étais une petite fille. J'étais une petite fille qui voyageait. Du fait qu'on fuyait, qu'on se cachait. Mais moi, à cette époque-là, à la limite, ça m'amusait. D'être une enfant de la guerre à partir du moment où j'ai été épargnée, alors que beaucoup ne l'ont pas été. Fuir d'hôtel en hôtel, c'est quand même une aventure, même avec la peur, se cacher. Quelque part, ça a été, pas tous les jours, mais quelque part, ça a été aussi très excitant dans la tête d'un enfant qui ne voit pas forcément le danger, qui comprend, mais qui... Bon, beaucoup d'autres n'ont pas eu ce privilège-là de fuir ils n'ont même pas eu le temps de fuir.
Quand ceux qui vont s'en vont aller, quand le dernier jour s'est levé,
dans la lumière blonde. Quand ceux qui vont s'en vont aller pour toujours et à tout jamais sous la terre profonde. Quand la lumière s'est voilée, quand ceux que nous avons aimés vont fermer leurs paupières. Si rien ne leur est épargné, oh que du moins soit exaucé leur dernière prière. Ils dorment, s'endorment, tranquilles, tranquilles. Qu'ils ne meurent pas au fusil en expirant déjà la vie qu'à peine ils allaient vivre. Qu'ils ne gémissent pas leurs cris seuls, rejetés ou incompris, éloignés de leurs frères. Qu'ils ne meurent pas en troupeau ou bien poignardés dans le dos, ou qu'ils ne s'acheminent en allant au troupeau de la mort, sans ciel, sans arbre, sans décor, la poitrine. Qui n'avaient rien demandé, mais qui savaient s'émerveiller d'être venus sur terre. Qu'on leur laisse choisir au moins le pays, fut-il lointain de leur heure dernière. Qu'ils aillent donc coucher leur corps dessous les ciels pourpres et or, au-delà des frontières. Ou qu'ils s'endorment enlacés comme d'éternels fiancés.
Jacques Chancel.
On en parlait tous les deux. Elle avait scrupule à en parler d'une manière publique, ou alors on l'enveloppait des mots à elle. Mais je crois que ça a été pour beaucoup d'ailleurs, pour elle mais pour beaucoup, une trace qui ne s'effacera jamais. Je ne sais pas dans quel ciel elle vit aujourd'hui, mais elle a encore tous ces fantômes qui traînent autour d'elle, parce que ça a quand même été la période la plus hallucinante vraiment du siècle, et peut-être de tous les siècles. Ce qui s'est passé là, au nom d'une race, mais c'est effroyable. Moi, j'ai honte même de ce qu'a fait la France, parce que quand même, nous avons porté beaucoup de gens, beaucoup de juifs, ici, au palais des sports, enfin, au cirque d'hiver. Et tous ces gens-là sont partis pour Auschwitz, après. Et on en parlait de ça. Comment, me disait-elle, comment des gens sensés, que j'aime, que j'ai bien connus, ont-ils pu se comporter comme des salauds? Parce qu'il y a eu parmi les traîtres de la collaboration des gens qu'elle avait aimés. Et de cela on parlait. Je lui dis, on va en parler à la radio. Ils me disent, non, ça c'est un sujet intime. Nous en parlons tous les deux. Et si jamais tu me posais la question, tu n'aurais pas de réponse. Et je lui répondais, mais j'ai rarement des réponses.
Marie Schex.
Je vais dire une chose idiote. Je veux dire, elle avait sa propre religion. C'est... Oui, elle l'a dû le dire. Ma religion, c'est la chanson. Bah, c'est chanté. Bon, je me moque d'elle, là. Mais je crois que c'était vrai. Elle, jamais elle disait je suis juive, on nous a persécutés ou on a changé de maison quand j'étais petite. Vous voyez, elle, ça n'est jamais évoqué. Et je trouve ça formidable parce que justement, elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de béquilles. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne ressentait pas les choses, mais elle n'en faisait pas étalage. C'est un peu péjoratif de dire ça, parce que je ne veux pas dire que quiconque fait étalage de quoi que ce soit, mais elle, elle n'avait pas besoin. Je veux dire, c'était pas ça. Elle était une femme, et elle aurait pu être catholique, protestante, juive. Elle n'a jamais ressenti le besoin de s'exprimer sur la religion et sur le fait qu'elle était juive. Tout en l'étant complètement, je veux dire, en se sentant pas autre chose que juive, mais c'était, vous voyez, c'était pas une revendication, voilà.
France Inter, 1941. La famille Cerf se retrouve à Tarbes. C'est dans cette ville qu'a lieu l'irréparable. On dit que Barbara n'y remettra jamais les pieds et refusera toujours d'y chanter. Marie Schex.
Oui, c'est vrai. Mais Parce que je pense que c'est là que la ceste a eu lieu. Peut-être le début. Je pense. Bon, ça a été dit, c'est pas non plus une révélation. Elle avait une espèce d'aversion pour cette ville. Il fallait pas s'y arrêter, il fallait pas chanter là, il fallait pas. Et ça correspond dans le temps à, oui, à la période de la guerre où ils allaient de maison en maison. Je pense que pour elle, c'était comme une chose taboue.
J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait. Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret.
J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence, moi qui ne me souviens jamais d'un pensée qui m'importune. C'est drôle, j'ai gardé le secret de cette longue nuit sans lune. J'ai souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci. Une longue nuit de silence. Soudain, je me suis éveillée. Il y avait une présence. Soudain, je me suis éveillée. Dans une demi-somnolence, c'était au dehors. On parlait à voix basse, comme un murmure, comme un sanglot étouffé. Au dehors, j'en étais sûre. J'ai souvenir qu'une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence, j'allais à demi éveillée, longeant une allée obscure, j'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure, il y eut. Je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit, c'était une forêt profonde, c'était là comme cette nuit, un bruit sourd venant d'outre-tombe. Qui es-tu pour me revenir? Quel est donc le mal qui t'enchaîne? Qui es-tu pour me revenir? Et veux-tu que vers toi je vienne? S'il le faut, j'irai encore tant et tant de nuits profondes, sans jamais revoir l'aurore, sans jamais revoir le monde. Pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur se repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence.
Juliette Gréco.
Elle a fini par parler. Elle a parlé trop tard. Elle avait parlé un peu dans Nantes. Elle avait un peu parlé. Mais je perds un chez-tu, c'était quand même très, très, très douloureux, une chose très douloureuse. Elle a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui aurait normalement dû être faite pour le bonheur. Et il semblerait qu'elle n'y soit pas vraiment arrivée. Pas vraiment.
Le psychanalyste Boris Cyrulnik.
Je pense que ce qu'elle avait inscrit dans sa mémoire, c'est « si tu dis qui tu es, tu vas mourir. Si tu dis que tu es juive, tu vas mourir. Si tu dis ce que t'as fait ton père, tu vas faire exploser ta famille. Donc la sauvegarde, c'est le secret. Grâce au secret, tu vas être autorisé à vivre, mais à un prix en amputant ta personnalité, à un prix humain exorbitant. Tu pourras vivre, tu pourras survivre, à condition de faire secret, c'est-à-dire à condition d'amputer une énorme partie de ta personnalité. » Donc quand la paix est revenue, elle a été très malheureuse dans les années d'après-guerre, elle a été affreusement malheureuse, elle a gardé l'espoir, elle a gardé le rêve, mais elle avait appris à survivre en faisant secret, donc c'était son style existentiel. Elle avait appris à vivre et à aimer de cette manière, ce qui devait être passionnant et pas facile.
Barbara, à l'émission Profil.
Vous dites qu'il est facile d'avoir son petit jardin quelque part. C'est un petit peu le jardin de Candide dont vous parlez. C'est-à-dire que...
Je crois qu'on peut se refaire un jardin partout, dans quelque lieu qu'on soit, dans les choses les plus affreuses, tout à coup dans une chose criarde. On peut tout à coup s'enfermer complètement. Enfin, moi, j'ai cette possibilité, j'avais ça quand j'étais enfant. Il s'enferme complètement. Une espèce de... Hop, comme ça. Pas toucher. Hop, on peut plus vous approcher. Se murer. Alors, ça, c'est bien.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupons volent et s'envolent nos rêves d'enfants. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, remontez l'arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Y a un arbre, pigeon vole.
À l'émission Pollen, Jean-Louis Foulquier et Sylvie Coulon arrivent presque à lever le voile sur l'enfance de Barbara.
Sur France Inter.
Votre première rencontre avec la chanson, vous, Barbara, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le déclic à un moment donné où vous étiez habitée, où
non,
ça a
non.
été naturel.
Moi, j'étais habitée, mais je pense que déjà, alors ça va paraître ridicule, mais moi, à 4 ans, je jouais à la pianiste, à la chanteuse, et j'ai toujours été persuadée, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, vedette ou pas vedette, j'ai toujours été persuadée que je chanterais, et que oui, ça c'est évident, je n'ai pas eu de rencontre avec la chanson, j'ai toujours été persuadée que je chanterais. Moi, j'ai fait du classique pendant plusieurs années, et puis un jour, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout mon truc. Je suis rentrée au conservatoire, mais d'ailleurs, j'étais acceptée que jusqu'au deuxième examen, il y en avait 3, donc le reste du temps, je l'ai passé à jouer à la belote au Rue de Madrid. Mais puis un jour, je crois que, je ne sais pas si c'est pas genre, je me souviens, il me semble que, je crois, mais je ne suis pas sûre que j'ai entendu Edith Piaf. Un jour, je me suis dit, oulala, mais c'est pas... Parce que, à ce moment-là, les gens faisaient du classique, il y avait une espèce, non pas de mépris, mais la chanson, la variété, c'était une chose, la variété, on parlait pas de variété. Les chanteurs, ils ont tout le complexe du contrut et du contre-là, enfin pas tous, mais je veux dire, on parlait beaucoup de ça, ce que t'as eu, le contre-là, enfin moi je l'avais pas, tu sais bien.
On chantait chez vous ?
Ben, chez moi,
6 mois.
Oui, parce que Diane Dufresne, justement, m'a raconté que la chanson, ça, pour elle, ça a été quelque chose de tout à fait naturel, parce que c'est sa mère qui lui avait apporté un certain nombre de chansons.
Non, on chantait pas chez moi, mais quand même, pas très loin de moi, il y a des gens de cirque et des slaves, des saltimbanques, oui, voilà. Même très près de chez moi, très près de moi.
Donc ça n'a pas été une chose difficile à expliquer que de dire « je vais chanter ».
Non, je n'ai pas dit « je vais chanter ».
Quelquefois, les familles sont atterrées.
Est-ce que vous ne seriez pas en train de me ramener à la famille, là?
Comme elle est fine, cette femme.
Hop, on change.
Marie Chex.
Tout ce qui était famille, tout ce qui voulait dire « on va voir de la famille » ou « on va... » Elle ne pouvait pas. Elle avait deux frères et une sœur, mais elle les voyait peu. Et on avait l'impression qu'à chaque fois, elle prenait des rendez-vous puis elle les défaisait. Ils venaient l'entendre chanter, mais elle ne voulait pas les voir. Enfin, ce n'était pas toujours vrai, parce que par exemple, son neveu, bon, c'était un garçon plus jeune, et il adorait sa tante, et lui, il l'a beaucoup vu, il allait beaucoup la voir, il lui parlait. Et alors, j'ai le souvenir d'une grand-mère. Alors ça, j'ai jamais raconté dans un livre, parce que c'est assez morcelé. Parce que Barbara, elle vous embarquait, elle vous disait, bon, on va faire ci, c'est tout de suite. On y va. Alors, j'arrivais pour travailler, elle me disait, bon, allez, on va aller voir la grand-mère. Alors, moi, la grand-mère... Bon, j'ai dit, on va voir la grand-mère. Alors, mais elle ne me disait pas, c'est ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle, ça pouvait être aussi une autre grand-mère. Je veux dire, on est allé voir, c'est une femme, une vieille femme... Comment dire, un genre un peu, on ressemble à George Sand, comme ça, un peu une espèce de créature qui vivait dans un appartement très sombre avec des très vieux meubles, des beaux meubles d'ailleurs, et qui lui disait ma petite, ma chérie, ma petite. Et je sais que Barbara lui laissait une enveloppe avec de l'argent. Enfin, j'ai supposé qu'il y avait de l'argent dedans parce que je vois pas ce qu'il y aurait d'autre. Et Barbara, on restait 10 minutes et elle fuyait et elle avait besoin de respirer. Donc c'est une des choses mystérieuses qu'on est allé faire, et parce que j'étais avec elle, il se trouve, et voilà, on allait voir la grand-mère. Mais elle ne m'a jamais donné de détails, et moi, je n'osais absolument pas lui demander. Pour les choses qu'elle ne disait pas, enfin, je ne sais pas, c'est par instinct, je ne posais pas des questions sur ce qu'elle n'avait pas envie de dire.
Et jamais au détour d'une conversation, un goût d'enfance ou...
Non, justement. Alors, tout ce qui était souvenir d'enfance, on ne pouvait pas en parler. Elle posait les questions, elle aimait que les gens lui parlent, mais quelqu'un lui aurait demandé, c'est arrivé des fois, quelquefois un journaliste malheureux est venu et lui a dit « mais madame, votre enfance, etc. » Et elle a dit « je n'ai pas, elle répondait quelque chose comme je n'ai pas eu d'enfance » ou bien « je l'ai oublié ». Elle coupait court, j'ai compris moi à l'époque que voilà, c'est quelque chose qui lui avait fait du mal et... Elle ne voulait absolument pas aller retourner ce mal. Elle ne voulait pas retourner à la cicatrice. Elle ne voulait pas aller à la blessure. C'était... Bon, il y en avait des blessures, oui, bien sûr.
Boris Cyrulnik.
Quand on est blessé, on pense à sa blessure. Et quand on a une enfance massacrée, comme celle de Barbara, on y pense beaucoup. Comment voulez-vous qu'on n'y pense pas? Donc je pense qu'elle était fascinée par ce qui lui est arrivé. On est tous fascinés par notre enfance. C'est notre enfance qui nous donne la direction de notre vie. Et alors en plus, quand l'enfance a été une succession de cataclysmes, la guerre, la persécution, la traque, la pauvreté, le viol, l'absence de soutien par la culture, c'est-à-dire que cette petite fille, personne ne l'a soutenue, ni sa famille, ni le quartier, ni la culture. Puisque je crois me rappeler qu'à l'âge de 15 ans, quand elle a enfin décidé d'aller au commissariat, le fonctionnaire de service lui a dit « Quel âge avez-vous, 15 ans ?» Il a répondu « Eh bien, revenez demain avec votre père. » Donc ça veut dire que la culture n'avait pas pensé, ça c'est nous qui avons mis ça, l'inceste sur le chantier, sur le débat public, parce que quand j'étais enfant, on nous disait que ça n'existait pas. Les grands noms de la psychanalyse m'ont affirmé que ça n'existait pas, et que c'était un fantasme de petite fille pour séduire son père. Alors les filles à qui c'était arrivé prenaient cette explication de manière assez moyenne. Et Mais c'était le dogme de l'époque. Et c'est nous qui avons dit, non, ça existe dans le réel, et il faut protéger ses enfants. Barbara n'a pas été protégée, elle n'a pas été soutenue. C'est donc elle qui a dû aller chercher son soutien sous forme amicale, sous forme professionnelle. Elle a été d'un courage extrême, ça sûrement pas été facile tous les jours dans sa vie. C'est pour ça que, en vieillissant, elle avait gardé un caractère parfois un peu explosif.
La nostalgie de l'enfance, Agnès Jaoui.
Mon enfance est une des plus belles chansons sur la nostalgie que je connaisse. Enfin, c'est moi, j'ai souvent du mal à pas pleurer en la chantant. C'est des paroles d'une beauté à la fois qui décrit la guerre pour les adolescents qu'ils étaient comme des vacances, et à la fois, voilà, j'ai tout retrouvé, hélas. Il faut jamais revenir au temps béni des souvenirs, du temps caché de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent.
Et quand vous dites que vous pleurez quand vous chantez Mon enfance, ou que des gens pleurent quand ils l'entendent, à votre avis, on pleure sur l'enfance de Barbara, sur la nôtre?
Moi, je pleure sur mon enfance. Enfin, je pleure sur, le passé qui n'est plus, sur ma mère qui n'est plus, sur... sur ce, il y a, je sais plus qui dit que la nostalgie c'est le plaisir d'être triste, même si c'est pas ça étymologiquement, parce que algie c'est la douleur et donc c'est la douleur du passé, mais c'est une douleur qui fait du bien et qui fait du mal. Enfin voilà, c'est ça qu'elle arrive très bien à décrire d'ailleurs. Hein, c'est ces sentiments incroyablement forts, contradictoires de souvenirs qui reviennent, de passé qui sera jamais plus, de souvenirs à la fois embellis, à la fois douloureux, à la fois, enfin, de toutes ces contradictions de sentiments et qu'elle sait si bien, encore une fois, transposer.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au coin perdu où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyantes étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence, avant que le soir ne se pose. J'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses, j'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme la source claire. Jean, Claude et Régine, et puis Jean, tout redevenait comme hier. Les parfums lourds des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Et là, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas. Il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'attirez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas.
pourquoi suis-je donc revenu? Et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort, jamais mon enfant.
C'était Barbara en noir et blanc
sur les ondes des radios francophones publiques.
À la recherche, Marie-Pierre Duval.
À la technique, Serge Brideau.
Un merci particulier à Martine Worms, Bernard Merle et Alain Thérien.
Cette émission est présentée par Anne Dorval
et signée Francis Legault.